Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud. Traité Choulin, page 23, Daf Kaf Gimel. Bonne écoute et bon limoud.
La Gemara répond, en fait, cette expression de Minatorim, donc cette restriction que nous apprenons du terme de Min, des, ne vient pas exclure le cas où ils en sont au stade où ils ont des plumes jaunes autour du cou, mais plutôt qui tarirka. Pourquoi est-ce que nous avons besoin de ce pasouk, les miute nirba venevad, pour exclure le cas d'un oiseau qui aurait été victime d'un accouplement avec un homme et un oiseau qui aurait été adoré. Nous noterons que l'Agmara parle uniquement d'un oiseau qui aurait été victime d'un accouplement avec un homme, mais non pas du cas d'un oiseau qui se serait accouplé avec un homme, parce que c'est un cas impossible. En tout cas donc, nous excluons ce cas, ces oiseaux en question ne pourront pas être offerts en tant que sacrifice. La Gemara explique, Sal kadata hamina, on aurait pu penser dire, ho'il uktiv, puisque le pasouk dit dans Vaikra Kavbet, concernant les animaux infirmes qui ne peuvent pas être offerts en tant que sacrifice, ki moshratam bahem mumbam, ils ont leur destruction en eux, ils ont des infirmités, betana de Berabi Ishmael, et il est enseigné dans une braïta, dans le Beta Midrash de Rabbi Ishmael, Kol Makom Shenemar Hashrata, partout où la Torah emploie le terme de destruction, Enoela Devar Erva Veavodat Kochavim, le pasouk ne fait allusion qu'à des relations incestueuses et à l'idolâtrie. Davar Erva, nous voyons que le pasouk fait allusion aux relations incestueuses d'Irtiv, parce que le pasouk dit dans Bereshit Vav, concernant la génération du déluge, Ki Hishrit Kol Basar Et Darko Ala Aretz, car toute chair a détruit son chemin sur la terre. Autrement dit, tous les hommes de cette génération étaient débauchés, comme un des psukim précédents le dit, Vaikru lahem nashim, etc. Et ils ont pris pour eux des femmes de tout ce qu'ils ont choisi. De là nous apprenons qu'ils commettaient l'adultère. En tout cas, nous voyons que le terme de kishrit, destruction, fait allusion à la débauche. Avodat Kochavim, nous apprenons que l'expression de destruction fait aussi allusion à l'idolâtrie, dirtiv, parce que le pasuk dit dans Dvarim Dalet, Pem tashritun vasitem lachem pesel, gardez-vous de peur de détruire vos chemins en vous faisant des idoles. Nous voyons donc que le terme de Tashritun fait allusion à l'idolâtrie. Puisque c'est ainsi, nous pouvons comprendre le pasouk dans Vaikra Kavet. Il est interdit d'offrir des sacrifices qui ont en eux une destruction parce qu'ils ont été victimes d'un accouplement avec un homme ou bien parce qu'ils ont été adorés comme idoles. Et aussi, il est interdit d'offrir un animal qui a une infirmité comme sacrifice. Puisque le pasouk les juxtapose, nous pouvons les comparer et on pourrait dire Kol Shehamum Poselbo, tout animal dont l'infirmité le rend pas saoul, impropre à être offert comme sacrifice, Dvar Erva Beavodat Kochavim Poslimbo, un accouplement humain ou bien l'idolâtrie le rendra aussi pas saoul, impropre à être offert comme sacrifice, Vrol Shehen Hamum Poselbo, et tout animal dont l'infirmité ne le rend pas impropre à être offert comme sacrifice, En Dvar Erva Beavodat Kochavim Poslimbo, l'accouplement humain ou l'idolâtrie ne les rendront pas impropres à être offerts comme sacrifice. Vehane ofot, en ce qui concerne les oiseaux, ho'il velo pasil behumuma, puisque l'infirmité ne les rend pas impropres à être offerts comme sacrifice, de'amarmar, parce qu'il a été dit ailleurs, tamut vezachrut bebehema, l'exigence de la perfection et d'être mâle n'existe que pour l'animal offert comme sacrifice, comme la Torah le précise à plusieurs reprises, par exemple, concernant le korbanola, ve'en tamut vezachrut beofot, tandis qu'il n'existe pas d'exigence de perfection ou d'être mâle pour les oiseaux offerts comme sacrifice, parce que la Torah ne l'a pas précisé. Par conséquent, une imperfection pratiquement invisible comme une imperfection de l'œil ne rendra pas l'oiseau impropre à être offert comme sacrifice. Cependant, s'il s'agit d'une infirmité visible, par exemple, s'il lui manque un membre, l'oiseau sera impropre à être offert comme sacrifice. Nous l'apprenons d'un pasouk dans Malachi Aleph qui dit concernant celui qui offre un animal infirme comme sacrifice, Hakrivehuna lepechatecha, essaye de l'offrir au prince, tu verras qu'il ne l'acceptera pas. Voir aussi le Tosfot. En tout cas, puisque nous avons appris que l'infirmité ne rend pas l'oiseau impropre à être offert comme sacrifice, Emma, on pourrait dire, Dvar Erva Veavodat Kochavim Namilolipsol Behu, que l'accouplement humain ou l'idolâtrie ne les rendra pas impropres aussi à être offert comme sacrifice. Kamash Malam, c'est pour cela que le Pasuk précise par le terme de min hatorim, des tourterelles, qui est une restriction, comme nous l'avons expliqué, que l'accouplement humain ou l'idolâtrie rendra l'oiseau impropre à être offert comme sacrifice. En conclusion, nous n'avons pas de preuve de la Braïta et la question reste donc sans réponse. Nouvelle question. Ba'e Rabbi Zera s'est posé la question suivante. Ha'omer hare alai olat behema. Je m'engage à offrir un animal comme Kormanola, min ha'ail o min ha'keves, soit un bélier, soit un mouton. Il n'a donc pas précisé s'il choisirait un bélier qui est impérativement âgé de plus de 13 mois ou un mouton qui est dans sa première année. Behevi palgas, et il a offert un mouton dans le 13e mois qui suit sa naissance. Celui-ci n'est ni considéré mouton ni bélier. C'est pour cela d'ailleurs que nous l'appelons palgas, qui est une contraction des mots palag et gas, à moitié gros. Autrement dit, c'est le stade intermédiaire entre le mouton et le bélier. Voir les commentaires sur la Mishnah de Masechet Para, Perek Aleph, Mishnah Gimel. La question se pose, Mahou, quel est la halakha? A-t-il accompli son vœu ou non? La Gemara précise, Aliba de Rabbi Yochanan, selon l'opinion de Rabbi Yochanan, Lotivelach, tu n'as pas de question à te poser. D'Amar, parce qu'il dit clairement, Biryahave, que ce mouton, dans le 13e mois qui suit sa naissance, est une créature à part. Autrement dit, c'est un stade différent, un stade intermédiaire, qui n'est ni mouton, ni bélier. D'Etnan, car il est enseigné dans une Mishnah, dans Maseret Para, Perek Aleph, Mishnah Gimel, dans le cas d'une personne qui a fait le vœu d'offrir un animal comme Korbanola, et il a précisé qu'il offrirait soit un bélier, soit un mouton. Hekrivo, s'il a offert ce palgas, qui est donc un mouton, dans le 13e mois qui suit sa naissance, Mevi Alav Niske Aïl, il devra accompagner ce sacrifice des libations d'un bélier, Ve'en Olelo Mizivro, mais ce sacrifice ne compte pas pour son vœu, autrement dit, il n'a pas accompli son vœu. Et cela parce qu'il avait désigné clairement qu'il allait offrir par exemple un bélier ou un mouton. En offrant cet animal, il ne l'a pas offert. D'Amar Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan dit là-dessus, pourquoi est-ce qu'il doit accompagner ce sacrifice des libations correspondantes à celles d'un bélier? C'est parce que le pasouk dans Bamidbar Tedvav concernant les libations qui accompagnent les sacrifices dit Ola Aïl, ou pour le bélier, le terme de O, ou, est une inclusion, les rabot et un palgas, vient inclure ce palgas qui est le mouton dans le 13e mois qui suit sa naissance. Nous apprenons donc de ce pasouk que ce sacrifice devra être accompagné des libations correspondantes à celles d'un bélier, soit deux mesures d'un issaron de fine farine, mélangé avec 4 louks d'huile et une quantité de 4 louks de vin qui seront versés en libation sur l'autel. Puisque, selon Rabbi Yochanan, nous apprenons d'un pasouk que le mouton âgé de 12 mois sera accompagné des libations correspondantes à celles d'un bélier, forcément c'est parce qu'il pense qu'il s'agit d'un stade intermédiaire, parce que s'il y avait un doute à ce sujet, comme nous l'avons dit précédemment, il est inconcevable de penser qu'un pasouk vient prescrire des lois concernant un doute, parce qu'Akadosh Baruch Hu n'a aucun doute. Puisque c'est ainsi, il est évident que selon l'opinion de Rabbi Yochanan, cette personne n'a pas accompli son vœu en offrant un mouton âgé de 12 mois. Kiti Belach, quand est-ce que tu peux te poser la question? Aliba de Barpada, c'est selon l'opinion de Barpada. Nous tournons la page à Daf Kaf Gimel Amud Bet.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page à Daf Kaf Gimel Amud Bet. Théamar, qui dit que dans le cas d'une personne qui offre un mouton âgé de 12 mois, Maïté, il emmènera les libations correspondantes à celles d'un bélier, comme il est écrit dans la Mishnah, ou Matné, mais il pose une condition. C'est-à-dire, comme l'explique le Tosfot, il mettra dans un récipient l'offrande correspondante à celle d'un mouton, soit une mesure d'un issaron mélangée avec 3 louks d'huile. Dans le deuxième récipient, il mettra une deuxième mesure d'un issaron mélangée avec 1 louk d'huile. Et il dira, si cet animal est considéré comme étant un bélier, toute cette offrande avec le vin qui l'accompagne seront les libations de cet animal. Mais si cet animal est considéré comme un mouton, la mesure d'un issaron mélangé avec 3 louks d'huile et le vin correspondant seront les libations qui accompagnent ce sacrifice, et le reste est une offrande dont je fais cadeau à l'autel, sans engagement. Nous voyons donc que selon l'opinion de Barpada, il est en doute si ce mouton âgé de 12 mois est considéré comme un mouton ou un bélier. Alors la question se pose, Mi Amrinan, est-ce que nous disons Aïl Vekeves Matne, il fait la condition uniquement à savoir s'il s'agit d'un bélier ou d'un mouton, et c'est uniquement cela le sujet du doute, Bebiria lomatne, mais il ne pose pas de conditions pour le cas où cet animal serait considéré comme une créature à part. Par conséquent, cette personne qui n'a pas désigné quel type d'animal il offrirait comme sacrifice, si c'est un bélier ou un mouton, en offrant ce mouton âgé de 12 mois, il a accompli son vœu au Dilma, ou bien nous dirons Bebiria nami matne, il pose aussi une condition, à savoir si cet animal est aussi une créature à part, de Amar, et il dirait donc Iberia hava, si cet animal est considéré comme étant une créature à part, lehave kuleh nedava, que toute cette offrande que j'offre en libation sera un cadeau offert à l'autel, parce que si cet animal est une créature à part, il n'y a pas d'obligation de l'accompagner de libation, parce qu'il n'y a aucune prescription à ce sujet dans la Torah. Si tel était le cas, donc si ceci était aussi le sujet du doute, selon Barpada, en offrant ce mouton âgé de 12 mois, il n'aurait pas accompli son vœu, parce qu'il y a aussi la possibilité que c'est une créature à part. L'Agmara conclut, Tekou, c'est une question qui reste sans réponse, et Eliyahu répondra. Lorsqu'une personne a été sauvée d'un danger, elle doit offrir un korban toda, un sacrifice de remerciement. C'est un sacrifice accompagné de quatre sortes de pain, dont une est fermentée, c'est du hametz. Les trois autres sont de la matzah, donc de la pâte qui n'a pas fermenté. Bah, et Rabbi Zera a posé la question suivante. Haomer hare alai lachme toda, celui qui dit « Je m'engage à offrir des pains qui accompagnent le sacrifice de remerciement, min ha-chametz o min ha-matzah », en précisant qu'il aurait le choix d'offrir soit 10 pains de chametz, soit 10 pains de matzah. La Gemara expliquera comment se fait-il qu'il peut s'engager à offrir uniquement les pains qui accompagnent ce sacrifice. Vehevi si'or, il a emmené des pains qui ont été faits avec de la pâte qui a commencé à fermenter. Mahu, quelle est la halakha ? C'est-à-dire, il y a lieu de se poser la question, est-ce que ces pains sont chametz ou matzah ? Finalement, puisqu'il avait le choix d'offrir soit du chametz, soit de la matzah, il aurait donc accompli son vœu. En fait, il existe trois stades de la fermentation de la pâte. Le premier stade, c'est lorsque la pâte commence à blanchir. Selon Rabbi Houda, que nous verrons par la suite, cette pâte est encore considérée comme non fermentée, comme de la matzah. Selon Rabbi Meir, cette pâte est considérée comme étant sior, c'est-à-dire commencée à fermenter. Le deuxième stade, c'est lorsqu'il commence à y avoir des fentes qui ressemblent aux antennes de sauterelles. Selon Rabbi Meir, cette pâte est déjà chametz. Selon Rabbi Houda, cette pâte a commencé à fermenter. Elle s'appelle sior. Le troisième stade, c'est lorsqu'il y a beaucoup de fentes qui s'en mêlent. Selon tout le monde, cette pâte a fermenté. Elle est considérée comme étant chametz. En Lagmara précise sior deman. Lorsque nous parlons de cette pâte qui a commencé à fermenter, selon qui parlons-nous ? Ici, hors de Rabbi Meir, le Rabbi Houda, si nous parlons de la pâte qui a commencé à fermenter selon la description de Rabbi Meir, c'est-à-dire lorsque la pâte a commencé à blanchir, et ceci selon l'opinion de Rabbi Houda, Matzama l'Etaï, cette pâte n'a pas fermenté, elle est considérée selon lui comme étant de la matzah. Et de Rabbi Houda, le Rabbi Meir, s'il s'agit de la pâte qui a commencé à fermenter selon la description de Rabbi Houda, c'est-à-dire lorsqu'il y a quelques fentes qui ressemblent aux antennes de sauterelles, et ceci selon l'opinion de Rabbi Meir, Chametzou, selon lui, c'est du Chametz, il n'y a pas de question à se poser à ce sujet. Nous sommes Masechet Choulin, Daf Kaf Gimel Amud Bet, à la 8e ligne du haut de la page. Nous avons vu la question de Rabbi Zera concernant une personne qui s'est engagée à offrir les pains qui accompagnent le Korban Toda, le sacrifice de remerciement. En effet, comme nous l'avons expliqué, ce sacrifice est accompagné de quatre sortes de pains, dont une est Chametz, les trois autres sont Matzah. La Gemara expliquera par la suite comment est-il possible qu'une personne s'engage à offrir uniquement les pains qui accompagnent le Korban Toda. Et cette personne a offert des pains fabriqués à partir d'une pâte au stade intermédiaire entre le Chametz et la Matzah. En effet, à ce sujet, il y a une discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Houda dans Maseret Psachim Daf Memchet Amud Bet, à savoir à partir de quand on considère la pâte comme étant chametz fermentée et interdite par conséquent à la consommation pendant la fête de Pessah. Le premier stade de la fermentation, c'est lorsque la pâte commence à pâlir ou à blanchir. Selon Rabbi Meir, c'est ce que l'on appelle sior, qui est interdit à la consommation. Selon lui d'ailleurs, celui qui en mange pendant la fête de Pessah est condamné à une peine de flagellation. Tandis que, selon l'opinion de Rabbi Houda, cette pâte est considérée comme étant matza, qui n'a pas encore fermenté. Le deuxième stade, c'est lorsqu'apparaissent des espèces de fentes qui ressemblent aux antennes de sauterelles. Selon Rabbi Yehuda, cette pâte est considérée comme étant chametz, celui qui en consomme pendant la fête de Pessah est condamné à la peine du retranchement dans le monde futur. Selon l'opinion de Rabbi Yehuda, nous appelons cette pâte sior, donc au stade intermédiaire entre le chametz et la matzah. Il est interdit d'en consommer pendant la fête de Pessah. Cependant, celui qui en mange n'est condamné à aucune peine. Le troisième stade, c'est lorsqu'apparaissent tellement de fentes qu'elles sont emmêlées. Même selon Rabbi Yehuda, cette pâte est considérée comme étant chametz. Alors la Gemara cherche d'abord à définir à quel stade et selon quelle opinion cette question se pose. Parce que si c'est au stade où la pâte a commencé à pâlir, selon l'opinion de Rabbi Yehuda, cette pâte est toujours matza, il n'y a pas de question. S'il s'agit du stade où sont apparues des fentes en forme d'antennes de sauterelles, et ce selon l'opinion de Rabbi Meir, là aussi il n'y a pas de question, parce que selon lui, comme nous l'avons expliqué, cette pâte est chametz. Alors la Gemara poursuit, Vei de Rabbi Meir, les Rabbi Meir. Et si la question se pose dans le stade que Rabbi Meir considère sior, c'est-à-dire lorsque la pâte a commencé à pâlir, et ce selon l'opinion de Rabbi Meir, mi de la keale, puisque comme nous l'avons dit, celui qui en consomme pendant la fête de Pessah est condamné à une peine de flagellation, chametzou, finalement, selon lui, forcément cette pâte est considérée comme étant chametz. Puisque c'est ainsi, il n'y a pas de question à se poser. La Gemara conclut, et là plutôt, des Rabbi Yehuda, les Rabbi Yehuda. Il s'agit du stade que Rabbi Yehuda considère comme étant séor, c'est-à-dire lorsque sont apparues des fentes en forme d'antennes de sauterelles, et ce selon l'opinion de Rabbi Yehuda. Comme nous l'avons dit, il est interdit d'en consommer pendant la fête de Pessah, mais il n'y a aucune peine prévue pour celui qui transgresse cette interdiction. Apparemment donc, Rabbi Yehuda est en doute si cette pâte est chametz ou non, lorsqu'elle est à ce stade intermédiaire. Dans l'autre cas, la question se pose, puisque cette personne n'a pas pris d'engagement particulier, à savoir quel type de pain il s'engage à offrir, il a donc le choix d'offrir soit du chametz, soit de la matzah. Maintenant, lorsqu'il offre des pains fabriqués à partir de cette pâte au stade intermédiaire, quelle est la halakha? Maï, qu'en est-il? Sfeka havia, nous considérons qu'à ce stade, nous sommes en doute si c'est du chametz ou de la matzah. Alors, puisqu'il n'a pas d'engagement particulier, venafik mimanapshar, de toutes les manières, il s'est rendu quitte de son obligation. Il a accompli son vœu. Odima, ou bien nous dirons, biryahu, une pâte à ce stade est considérée comme étant une créature particulière. Autrement dit, c'est un stade intermédiaire qui n'est ni chametz ni matzah. Velonafik, par conséquent, il n'a pas accompli son vœu en offrant ses pains fabriqués à partir de ce type de pâte. Alors la Gemara demande, Veha amar Ravuna, pourtant Ravuna dit, Ha omer hare alay lachmetoda, celui qui dit, je m'engage à offrir des pains qui accompagnent le sacrifice de remerciement, mevitoda velachma. Il a l'obligation d'offrir le sacrifice de remerciement et les pains qui l'accompagnent. Il ne peut pas s'en sortir en offrant uniquement les pains qui accompagnent ce sacrifice, et ce parce que nous estimons qu'une personne sait que ces pains ne sont pas offerts tout seuls, ils accompagnent toujours un sacrifice. Forcément, il s'est engagé donc à offrir le sacrifice accompagné de ces pains. Mais qui va dire chayev le betoda velachma, puisqu'en prenant cet engagement, il s'est engagé à offrir un sacrifice de remerciement et les pains qui l'accompagnent. Même s'il a offert ses pains fabriqués à partir d'une pâte à ce stade intermédiaire entre le chametz et la matzah, ha lo yada hay gavra, pourtant cet homme ne sait pas i chametzou si ses pains sont du chametz de l'été matzah pour emmener des pains de matzah pour compléter le sacrifice, i matzahou, est-ce que ses pains sont de la matzah de l'été chametz pour emmener des pains de chametz pour compléter le sacrifice. Finalement, de toute façon, il devra offrir les deux types de pains pour accomplir son vœu. La Gemara répond, l'otricha, nous n'avons besoin de poser cette question uniquement pour le cas des Amar, où cette personne aurait dit, Hare alay chala, je m'engage à offrir des pains, comme nous l'avons dit, sans préciser la nature du pain, liftor todato shel ploni, pour exempter l'obligation d'un tel d'offrir un sacrifice de remerciement. C'est-à-dire, il connaissait une personne qui avait l'obligation d'offrir un sacrifice de remerciement, et il s'est engagé à fournir une partie des pains qui accompagnent ces sacrifices. Voir les tchuvot oneg yom tov siman pezaïn. Ainsi, cette personne n'a pas l'obligation d'offrir le sacrifice lui-même, il pourra se contenter uniquement d'offrir les pains qu'il s'est engagé à offrir. Maintenant qu'il a offert les pains fabriqués à partir d'une pâte au stade intermédiaire entre le Hametz et la Matzah, la question se pose, est-ce qu'il a accompli son engagement ou non? La Gemara demande, sauf, finalement, Ha Loyada Hai Gavra, la personne en question ne sait pas Ichametsu, si ces pains en question sont du Hametz, Delete Matzah, pour amener de la Matzah pour compléter son sacrifice, Imatzahu, ou bien est-ce que ces pains sont de la Matzah, Delete Hametz, pour amener du Hametz pour compléter son sacrifice. Ainsi donc, en offrant ces pains, il n'a pas exempté l'obligation de son collègue d'offrir des pains, il devra en offrir d'autres, de toute façon, pour accomplir son engagement. L'Agma répond, l'Otricha, nous n'avons besoin de poser cette question uniquement pour le cas de l'Ohamar Liftor, où il n'a pas dit clairement qu'il offrait ses pains pour exempter l'obligation d'un tel. Il a dit simplement, je m'engage à offrir des pains pour le sacrifice d'un tel. Ainsi, il n'est pas nécessaire que ces pains aient exempté l'obligation de son collègue d'offrir des pains qui accompagnent le sacrifice. La question se pose uniquement concernant Mifak Gavra Yedenidro. Est-ce que cette personne a accompli son vœu? Nafik, en offrant ses pains fabriqués à partir d'une pâte au stade intermédiaire entre le Hametz et la Matzah, a-t-il accompli son vœu? Olo Nafik, ou bien ne s'est-il pas rendu quitte de son engagement? Et il devra donc offrir d'autres pains pour s'acquitter de son engagement. La Gemara conclut, Tekou, c'est une question qui reste sans réponse, Eliyahu Navi répondra. Nous noterons que cette question ne se pose uniquement concernant la personne qui a pris cet engagement d'offrir des pains, mais la personne qui a l'obligation d'offrir le sacrifice de remerciement ne s'est pas acquitté avec ses pains. Il devra donc de toute manière en offrir d'autres pour accompagner son sacrifice. Et finalement, comme il n'y a rien à faire avec ses pains, ils seront rachetés et la contre-valeur tombera dans la caisse qui sert à offrir des sacrifices en cadeau. On achètera avec cet argent un sacrifice de remerciement ou les pains qui l'accompagnent, voire le Rashba. Nous avons fini ici le shiur de Maseret Roulin d'Av Kav Gimel. Nous commençons le shiur de Maseret Roulin d'Av Kav Dalet. Nous commençons d'Av Kav Gimel Amud Bet à la 8e ligne du bas de la page à la Mishnah. Alors, la Mishnah dit Kasher Bepara, la manière qui est valable d'abattre la vache rousse dont la cendre sert à purifier ceux qui sont devenus impurs par le contact d'un mort, c'est-à-dire par l'égorgement, Pasoul Be'egla, n'est pas valable pour abattre la génisse décapitée que l'on abat lorsqu'on découvre un cadavre dont on ne connaît pas l'agresseur. Kacher Be'egla, la manière valable pour abattre la génisse décapitée par un coup de hache sur la nuque, Pasoul Be'para n'est pas valable pour abattre la vache rousse. Alors l'Agma a dit là-dessus, Tanoura Banan, nos Chachamim ont enseigné dans une braïta, Para Be'shrita Kshera, la vache rousse est cachère lorsqu'elle est abattue par égorgement, Barifa Psula. Mais si elle est abattue par un coup de hache sur la nuque, elle est Pasoul. Egla, tandis que, en ce qui concerne la génisse décapitée, Barifa Kshera, en l'abattant par un coup de hache sur la nuque, elle sera cachère, Beshrita Psula. Mais si on l'abat par égorgement, elle sera Pasoul. Nimtset, il se trouve donc, cachère Bepara, la manière valable pour abattre la vache rousse, Pasoul Be'egla, n'est pas valable pour abattre la génisse décapitée. Kacher Be'egla, la manière valable pour abattre la génisse décapitée, Pasoul Be'para, n'est pas valable pour abattre la vache rousse. Alors la Gemara demande, Utehe para kshera be'arifa mikal vachomer. On n'a qu'à dire que la vache rousse soit kacher lorsqu'elle a été décapitée par un coup de hache sur la nuque. Et cela, nous pouvons l'apprendre par raisonnement a fortiori, qui est le suivant. Uma eglash lo hukshera be'shrita. Si déjà la génisse qui n'est pas cachère lorsqu'elle est abattue par égorgement, Hurshera Be'arifa, elle sera cachère lorsqu'elle est abattue par un coup de hache sur la nuque. Parash Hurshera Be'shrita, la vache rousse qui est cachère lorsqu'elle est abattue par égorgement, Enadin Hurshera Be'arifa, n'est-il pas évident qu'elle sera cachère aussi lorsqu'elle est abattue par un coup de hache sur la nuque? Nous passons à Daf Kavdalet Amudalef.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.